Vous écoutez le MuPod, un podcast potentiellement musical. Épisode 0. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast où il sera question de musique, de potentialité, mais pas seulement. Je suis Valentin Villeneuve, je suis pianiste, pédagogue et auteur, et depuis un peu plus de 5 ans, j'anime l'ouvroir de musique potentielle, c'est-à-dire l'UMUPO. Qu'est-ce donc que l'UMUPO ? Eh bien, où c'est ouvroir donc un atelier pour fabriquer quoi ? De la MUPO, c'est-à-dire de la musique potentielle, toutes sortes d'objets musicaux potentiels, parfois involontairement musicaux d'ailleurs, des objets du passé que nous nous employons à déterrer, à désocculter, à recycler ou à réévaluer, et des objets pas encore existants, ou tout au moins pas encore découverts, puisque potentiellement, toute la musique imaginable, et même non imaginable, existe déjà quelque part. Alors, quel intitulé donner à ce podcast ? S'agissant d'un pot pommu, à savoir d'un podcast potentiellement musical, j'ai souhaité éviter de lui donner un nom en 3 syllabes, pour éviter toute confusion possible avec notre collectif lui-même. Puisqu'il s'agit ici, soyons bien clairs, d'une initiative strictement personnelle de votre serviteur. Le MuPod, que vous écoutez en ce moment, est en effet très officiellement le podcast non officiel de l'UMUPO, ou pour le dire autrement, son podcast inofficiellement officiel. Évidemment, par les temps qui courent, mon premier réflexe a été de saisir le terme MuPod dans mon moteur de recherche préféré, afin d'éviter tout ennui juridique éventuel, ce qui m'a permis de découvrir que le mot n'est, allez savoir pourquoi, guère utilisé pour l'instant. Il y a tout au plus une entreprise australienne qui commercialise, sous la marque MuPod, de petits drones que l'on peut faire voler soi-même. C'est un marché en plein boom, les drones. Pas plus tard que le mois dernier, l'entreprise Disney a sollicité un permis pour déployer des centaines de drones lumineux au-dessus de ses parcs d'attractions, pour créer des formes dans le ciel ou que sais-je. Mais enfin, dans le cas présent, tant que l'UMUPO ne s'occupe pas de vendre des drones, on devrait être à peu près tranquille. Non que l'idée ne mérite pas d'être envisagée d'ailleurs. Stockhausen lui-même avait, je crois, imaginé un quatuor à cordes dont l'exécution nécessitait un hélicoptère. Alors pourquoi pas mettre le MuPod podcast dans un MuPod drone ? Ça ne me déplairait pas d'ailleurs d'imaginer une flotte de drones qui planerait à basse altitude et diffuserait ma voix de façon mystérieuse, omniprésente, phénoménale. Et donc, au passage, pour ceux ou celles d'entre vous qui se seraient demandé combien de temps je peux parler à voix haute sans me rêver dans un rôle de dieu, la réponse est manifestement pas plus de 3 minutes. Enfin, pour résumer, le MuPod est un popomu de l'UMUPO, et comme ça, tout devient plus clair. Assez peu de rubriques aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un épisode à vocation essentiellement introductive. Outre l'éditorial que vous venez déjà de subir, donc ça c'est fait, nous aurons quand même une petite curiosité musicale, la présentation d'une contrainte donnée, et nous nous quitterons sur une rumination portant sur la dite contrainte. La curiosité musicale que j'ai choisi de présenter aujourd'hui est une petite pièce relativement peu connue en dehors du milieu pianistique. Elle a été écrite en 1885 par Franz Liszt, qui a choisi de l'intituler en français « Bagatelle sans tonalité ». Alors déjà, ce titre, à lui seul, ne peut que frapper a posteriori, puisqu'il semble préfigurer, avec 20 ou 30 ans d'avance, l'avènement de l'écriture atonale au siècle suivant, notamment chez Schoenberg. Et pour autant, il faut se garder de tout anachronisme, et donc la pertinence même d'une telle lecture n'est pas sans poser question. De cette partition, nous savons tout au plus que Liszt l'a donc écrite à la toute fin de sa vie, puisqu'il est mort l'année suivante, et à ce point-là, sa santé était déjà déclinante. Et nous savons également qu'il souhaitait l'inclure dans ses Mephisto-Walther, c'est-à-dire ce cycle de partitions pour piano extrêmement virtuoses, qu'il a rédigé tout au long des dernières décennies de sa vie, autour de la figure de Mephisto, cet envoyé du diable qu'on trouve chez Goethe. Et évidemment, l'écriture de cette bagatelle évoque très fortement l'écriture des Mephisto-Walther, dans la mesure où Liszt, par exemple, use et abuse de l'intervalle de triton, à savoir, par exemple, fa si, intervalle dont de nombreux théoriciens ont fait, depuis le Moyen-Âge, une lecture mystique en l'associant au diable et à la tentation. Il est vrai que c'est un intervalle en soi assez instable, même sans parler de dissonance, puisque c'est un terme extrêmement subjectif sur lequel nous serons d'ailleurs amenés à revenir, il appelle à se résoudre, par exemple, sur une tierce majeure ou sur une sixte mineure. Mais en tout cas, quand on reste sur un intervalle de triton, effectivement, ça produit un sentiment d'attente. Alors voilà les premières mesures de cette fameuse bagatelle, donc sous forme de valse très rapide. Et ainsi de suite. Donc, comme nous l'avons vu, la partition est essentiellement construite autour de l'intervalle de triton, voire de deux tritons couplés sous forme d'accords de septième diminuée. Et cet intervalle de triton appelle une résolution, sauf qu'ici, cette résolution ne viendra jamais. Et Liszt prend bien soin de ne jamais lever le doute sur le contexte tonal dans lequel on pourrait en fait se trouver. Il propose des pistes, puisque chaque section successive est construite sur un balancement entre deux accords, l'un plutôt, on va dire, dissonant et l'autre plus consonant, mais même cet accord, qui pourrait être un accord de résolution, reste au mieux un vague renversement de quarte et sixte, et donc jamais un accord de tonique en bonne et due forme. Il s'ensuit que de cette partition, de nombreuses lectures différentes peuvent être faites. Par exemple, la page Wikipédia qui lui est consacrée vous expliquera qu'il n'y a pas de problème, on est globalement en ré majeur, et puis c'est juste un petit subterfuge de la part de Liszt, mais qui ne trompe personne. Personnellement, j'en suis moins convaincu. Déjà, pour ma part, j'entendrais plus volontiers du si mineur que du ré majeur, mais plusieurs autres réponses pourraient être proposées, et c'est bien là tout le propos de l'auteur. Puisque je l'évoque, la page Wikipédia en question trahit fort bien l'ambivalence et les niveaux de lecture possibles autour de cette partition, puisque dès la création de cette page Wikipédia, le 16 novembre 2004, très exactement, le contributeur nommé Sketchy nous indique que la pièce est souvent considérée, par qui il ne le précise pas, comme une prédiction de la direction que va prendre la musique classique, plutôt que comme faisant vraiment partie du mouvement atonal. Bon, d'accord, cette phrase me semble un petit peu vague, mais elle va rester au fil des ans, même si par exemple, le 13 mars 2006, un contributeur sous IP rajoute le mot « incorrectement ». Cette pièce est souvent incorrectement considérée comme une prédiction de la direction, etc. Et cette version elle-même va être promptement annulée. Donc au fil des années, il va y avoir des opinions qui divergent, des avis qui se confrontent, il y aura même une controverse de neutralité sur la page Wikipédia des valses Mephisto. Enfin, l'examen de cet historique n'est pas inintéressant, et d'ailleurs il conviendrait sans doute de rendre un hommage appuyé au contributeur Wikipédia du nom de John Young, qui se décrit lui-même sur sa page utilisateur comme « a pain in the ass », donc ça se passe de traduction. Et ce contributeur, en 2008, va considérablement enrichir la page consacrée à la bagatelle sans tonalité. Il va y ajouter plein de remarques, issues d'ailleurs de sources tout à fait légitimes, au sein desquelles se glissent parfois des commentaires un peu plus subjectifs. Par exemple, il nous explique que même si cette pièce n'est pas particulièrement dissonante ou atonale au sens de la musique de Schoenberg, elle est extrêmement chromatique et devient même ce que le contemporain de Liszt, Fétis, nommait de l'omnitonalité. Alors, François-Joseph Fétis, c'était un théoricien français qui, en fait, était de la génération précédente par rapport à Liszt, et c'était une espèce de vieille barbe dont les théories harmoniques ont été complètement oubliées, et ce, à juste titre, à mon sens. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire sur cette page, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Donc à ce stade, je n'ai que trop tardé à vous le proposer, mais nous allons enfin pouvoir écouter cette œuvre dans une interprétation évidemment bien plus correcte que le déchiffrage à la truelle commis précédemment par votre serviteur. Et il se trouve précisément qu'un pianiste de Boston, qui s'appelle Ian Lindsay, a enregistré de nombreuses œuvres de Liszt qu'il met à disposition sur le web dans le domaine public. Donc il n'y a même pas de licence alternative, on peut en faire absolument ce qu'on veut. C'est ce qui va me permettre de l'inclure ici. Donc nous écoutons la Bagatelle sans tonalité de Franz Liszt, interprétée par Ian Lindsay. Alors au-delà de son intérêt historique, cette pièce nous intéresse plus particulièrement dans un contexte oumupien, puisque si on regarde la partition de très près, on se rend compte qu'elle fait intervenir très peu de quintes justes. Évidemment le triton, la quinte diminuée, on en a déjà parlé, est très très présente, mais la quinte juste, eh ben, on en a très 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 peu. On en trouve quelques-unes à partir de la deuxième partie du morceau. Par exemple, on a des accords comme ceci. Là, on entend vraiment la présence d'une quinte. On va trouver aussi quelques accords de quarte et sixte. Voilà, ce genre d'accord. Mais au-delà de ça, la quinte juste apparaît vraiment très 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 peu. Et on pourrait presque parler finalement, même si c'est évidemment involontaire de la part de Liszt, on pourrait presque parler de l'hypoval. Alors qu'est-ce que c'est que le l'hypoval? Eh bien c'est la contrainte Oumupienne qui consiste à s'interdire l'usage d'un intervalle donné, que ce soit sous forme de notes simultanées, par exemple ici une quinte plaquée en tant que telle, de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire on peut très bien avoir un accord dans lequel il y a deux notes qui forment une quinte à parfois plusieurs octaves de distance, avec parfois d'autres notes au milieu. Ou parfois c'est aussi l'usage de cet intervalle entre deux notes adjacentes qui va être interdit, par exemple. Ou on peut même l'interdire quand il s'agit de notes non directement adjacentes, mais qui se rejoignent quand même dans le même mouvement mélodique. Alors, le lipoval est évidemment une contrainte spécifiquement oumupienne, puisque c'est même une des toutes premières que j'avais proposées en 2011 en réactivant l'oumupo. Évidemment, il s'agit ici d'une transposition d'une contrainte oulipienne bien connue, qui est celle du lipogramme. Le lipogramme, c'est quand les auteurs oulipiens écrivent en s'interdisant d'utiliser telle ou telle lettre de l'alphabet. L'exemple le plus connu étant évidemment le roman de Georges Perec, La Disparition, qui est écrit entièrement sans utiliser la lettre E. Alors bien sûr, la traduction la plus évidente en termes musicaux de cette contrainte serait de s'interdire d'utiliser telle ou telle note. Ça serait la contrainte donc de la liponote. Cependant, il me semble que c'est une contrainte qui n'est finalement pas si intéressante que ça, puisque par le jeu des modulations, en choisissant tel ou tel mode, tel ou tel système d'écriture, on peut toujours s'en sortir pour que finalement la note interdite ne soit pas une note absolument essentielle, tout comme le E l'est pour la langue française par exemple. Il m'a paru plus intéressant de chercher à interdire un intervalle donné, d'où le nom de lipoval. À titre d'exemple, voici un petit prélude que j'avais rédigé en 2014, dans lequel je me suis strictement interdit tout usage de la tierce majeure. Alors, ces points ayant été posés, la question qui nous reste à aborder, c'est le lipoval a-t-il un avenir? Ayant été jusqu'à présent la seule personne, y compris à l'Oumupo, à le décrire et à essayer d'en faire usage, je ne suis probablement guère à même de répondre à cette question. Comme je l'ai expliqué il y a un instant, l'enjeu premier était pour moi de traduire l'état d'esprit de l'Oulipo des origines vers le domaine musical. Et même si de ce point de vue la greffe semble fonctionner, il reste à voir si l'on peut dépasser un stade de simple gadget ou d'expérience anecdotique. De fait, le lipoval demanderait sans doute à être plus clairement défini. Nous avons vu que son degré de rigueur peut varier, il peut concerner les intervalles simultanés, qu'on plaque à vide ou bien qu'on remplit, mais aussi les intervalles entre des notes consécutives, voire se succédant indirectement. Et dans ce cas, il faut alors définir une granularité, c'est-à-dire un périmètre d'action pour le lipoval. Est-ce qu'on se limite à deux notes apparaissant dans la même mesure, ou dans la même carrure, ou dans le même système? La réponse est évidemment variable, selon les morceaux et même selon les auditeurs, selon que telle note continue de résonner, si je puis dire, dans notre tête, plus ou moins longuement après avoir été entendue. Dans un même ordre d'idées, doit-on considérer que le lipoval doit s'appliquer non seulement à son intervalle cible, mais également au renversement du dit intervalle? Depuis les années 1960, et j'y reviens d'ailleurs dans un instant, une certaine école de pensée, notamment américaine, a pris le parti de considérer les intervalles complémentaires comme équivalents. Et pourtant, les 3 siècles précédents d'harmonie dite classique tendraient à nous dire que non, une quarte et une quinte, ce n'est pas du tout pareil. Un calcul assez simple nous permet de montrer que si l'on écrit avec n notes différentes, le nombre d'intervalles pouvant se produire entre ces notes est de n fois n-1. il s'ensuit qu'une pièce ou un fragment, sur trois notes uniquement, sera nécessairement lipovalique. Si l'on utilise quatre notes, on peut ne pas tomber dans le lipoval, puisque 4 fois 4 moins 1 égale 12, mais dans ce cas, il faut vraiment choisir ses notes avec soin, par exemple en se servant du tétracorde panintervallique utilisé par Elliot Carter, et plus récemment d'ailleurs par Tom Johnson. Par exemple, si je joue Do, Ré bémol, Mi naturel, Fa dièse, rien qu'avec ces quatre notes, je peux constituer une seconde mineure, une seconde majeure, une tierce mineure et majeure, une quarte juste et un triton. Ce tétracorde n'est d'ailleurs que l'expression musicale d'un objet mathématique plus général, à savoir la règle de Golomb, laquelle n'est pas nommée en hommage à un personnage du Seigneur des Anneaux, mais au mathématicien américain Solomon Golomb, qui est mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, au printemps 2016. Finalement, peut-être que ce qui rend le lipoval le plus intéressant, c'est qu'il propose une manière inédite de décrire des objets harmoniques et mélodiques déjà explorés. De même que dans le domaine oulipien, on peut décrire certaines contraintes, par exemple le monovocalisme ou la contrainte dite du prisonnier, comme des formes particulières de l'hippogramme. Il est également possible de décrire certaines partitions sous contrainte en termes de lipoval. Pour le dire autrement, c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Ainsi, l'opéra sur quatre notes qu'a écrit Tom Johnson en 1972, en n'utilisant que les notes La, Si, Ré et Mi, est nécessairement un lipoval en seconde mineure, en tierce majeure, en triton, en sixte mineure et en septième majeure. D'ailleurs, cette série d'intervalles interdits est exactement la même qui s'applique à la gamme pentatonique, celle des touches noires du piano, qu'affectionnent en général tous mes jeunes élèves. Elle est également donc lipovalique en seconde mineure, en tierce majeure, en triton, sixte mineure et septième majeure. Comme quoi, il est possible d'obtenir toutes les couleurs intervalliques de la gamme pentatonique, mais avec 4 notes seulement au lieu de 5. Donc avec 20% d'économies immédiatement réalisables, s'ouvrent ainsi, à n'en pas douter, des perspectives intéressantes en matière de restrictions budgétaires. Et du coup, toutes les expériences musicales dans lesquelles on choisit de limiter le nombre de notes ou la tessiture autorisée peuvent se décrire comme des lipovals, dont le périmètre serait en l'occurrence égal à la longueur de la pièce entière. Donc bref, dès que l'on n'utilise que peu de notes, ou que l'on sort, comme nous l'avons vu chez Liszt, de la politique de hauteur traditionnellement associée au langage tonal, le lipoval n'est pas loin, et ce sont sans doute là les lipovals les plus remarquables, ceux que l'on fait sans le vouloir. N'hésitez pas à retrouver cet épisode, ainsi que tous ceux qui ne manqueront pas de le suivre, sur notre site web, umupo.org/podcast. Je suis Valentin Villeneuve et ceci était le MuPod épisode 0. Merci et à bientôt!